Bienvenue à Escal 16-17 avec Fulgence Blanc au micro. Voilà, c'est l'avant-dernière de la semaine, ça va continuer comme ça qu'aujourd'hui c'est mercredi. Moi, je suis content que la globe-trotteuse Maud Carrier soit déjà de retour pour nous parler de voilà, d'un long week-end à Toronto. Voilà, ouais, c'est ça, elle est de retour. Bon, c'est la chroniqueuse de voyage, chronique voyage, une fois par semaine. Bon, la semaine passée, elle ne se sent pas bien, elle est de retour. Et en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire quoi? À 16h30, je vais recevoir Sarah Girard qui va nous parler de son livre Vegan en 30 minutes. Pour ceux qui n'ont pas du tout le temps de faire de la cuisine, c'est pas bon, ben qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui sont tellement pris dans leur vie que même se mettre à la cuisine pour 15 minutes, 30 minutes, même une heure, c'est déjà trop.
Même pour ceux qui voyagent.
Oui.
Il y a beaucoup qui voyagent, surtout aujourd'hui.
Oui, oui, oui. Alors, vegan en 30 minutes, ça veut dire c'est des repas déjà prêts à réchauffer ou bien faire rapidement soi-même, pourquoi pas? Ouais, comment préparer, comment réchauffer. Elle est mieux placée pour me le dire. Moi, j'ai pas écrit des livres. C'est surtout qu'elle est maman, elle doit nourrir ses enfants, donc elle a beaucoup plus d'idées que nous autres là. Voilà. Ok, ça tout de suite. Je sais pas si Maud est déjà au bout du fil. Voilà. Bonjour Maud.
Elle y était.
Allô. L'on propose, la technologie dispose.
Ah. Vous m'entendez?
Oui, on t'entend maintenant.
Ah, parfait. Bon, désolé, je vous entendais très bien, mais bon, problème de communication.
Ah ouais.
Mais je suis là.
C'est ce que je disais. L'homme propose, la technologie dispose. Bonjour Maud.
Bonjour, je suis contente de vous retrouver cette semaine.
Moi aussi, nous aussi, ici en studio. Alors, on est bien content que tu viennes nous parler de ce long week-end à Toronto.
Et oui, oui, parce que bon, je l'avoue, moi, Toronto, c'était un peu une destination malmenée, dans le sens que moi, j'y allais pour le boulot, j'y allais pour des réunions, puis j'y rentrais, et c'est tout. Donc, ça a vraiment pris plusieurs années avant que j'y aille pour en profiter comme voyageuse, comme touriste, et me rendre compte que c'est une ville vraiment formidable à explorer. Oui. Donc, je suis contente de vous en parler aujourd'hui, puis de vous donner des petits conseils, des trucs à voir dans la grande ville.
Oui, oui, la grande ville, hein, ouais, à la ville reine.
Exactement, la ville reine qui est située au bord du lac Ontario. C'est la plus grande ville au Canada, donc 6,3 millions d'habitants. Alors, c'est une ville où il y a beaucoup à faire et c'est pas très loin là, d'ici, en fait. On a l'impression que c'est pas à côté, mais depuis Québec ou Montréal, bon, on prend l'autoroute 401. Et de Montréal, on compte environ 5 heures de route. Donc, ça fait quand même bien.
Ça se fait bien.
Mais ça se fait bien.
Oui,
pour un week-end, on part tôt le matin avec un petit café, là, puis on s'en rend pas compte qu'on est presque déjà arrivé là, quand c'est l'heure du dîner.
C'est pas la Gaspésie.
Non, mais en fait, ça prend, c'est ça. Exactement. C'est tout à fait de la Gaspésie. C'est vraiment la grande ville. Oui. On peut y aller en voiture ou en autobus même. Hein, il y a des autobus qui se rendent. On peut aussi se rendre en train. Donc, si on ne conduit pas ou ça ne nous tente pas de faire le 5 heures de route, il y a des trains qui prennent environ entre 6 à 8 heures là, qui permettent, évidemment, de relaxer à bord puis d'arriver directement au centre-ville de Toronto.
Wow.
Et si on a le budget, ben, il est aussi possible d'y aller en avion parce que Toronto a un petit aéroport au centre-ville, donc sur le lac Ontario, il y a un aéroport qui s'appelle l'aéroport Billy Bishop. Puis le coût d'un billet d'avion aller-retour, là, c'est environ 250 $, donc c'est pas si mal.
Ici, on n'a pas les EasyJet et autres là, qui font les billets d'avion en Europe, hein, dans les grandes villes, à 40 €, 50 €. Là.
Non, exactement, malheureusement, mais bon, ça demeure pas si cher, mais ça arrive aussi qu'il y a des rabais, donc ça vérifier les prix des billets d'avion, parfois ça peut valoir la peine justement pour se sauver le temps de la route. Donc, comme je disais, la ville de Toronto est grande, puis il y a vraiment beaucoup à faire, mais je débute par un quartier qui est moins connu je débute par mon petit secret, le bien gardé, un quartier qui s'appelle The Beaches, qui est à 20 minutes à l'est du centre-ville. Donc, The Beaches, c'est un quartier où on retrouve vraiment des jolies maisons ancestrales, avec une rue commerciale où on retrouve des bonnes adresses. C'est la rue Queen qui se prolonge jusqu'au centre-ville. Mais dans ce coin-ci, on retrouve des petits cafés, des petites boutiques et on retrouve aussi la plage parce qu'on est sur le bord du lac Ontario. Puis il y a vraiment, évidemment, comme son nom le dit, The Beaches, on est dans un quartier de plage. On retrouve
c'est ce que je pensais d'ailleurs. Je me suis dit, ça doit se trouver quelque part là-bas au bord de tenez là, ou bien des petits fleuves là, à l'intérieur de la ville.
Mais c'est vraiment, le lac Ontario est tellement grand qu'on pourrait se croire pratiquement au bord de la mer. Là. Puis il y a un joli boardwalk en bois qui permet de se balader. Donc ça permet vraiment, c'est accessible pour tout le monde parce que bon, ça permet de se rendre même, de descendre jusque sur le sable. Si on est en chaise roulante, là, c'est super facile de se balader. Puis d'avoir cette belle vue-là sur le bord de l'eau. Puis évidemment, en saison, mais on peut se baigner, mais là, il commence à faire peut-être un petit peu froid.
Ouais.
Là, c'est à vos risques et périls.
Non, ça veut dire que dans le courant du mois de juin et juillet ou bien août, comme ça, on peut se baigner, quoi.
Oui, définitif, oui.
Ouais, l'eau doit être chaude à cette époque-là.
Mm-hmm. Mais bon, hein, même si on ne se baigne pas, c'est toujours agréable de se balader sur le bord de l'eau comme
de
ça.
De se retrouver au bord de l'eau.
Avec les belles couleurs d'automne qui va avoir aussi débuté à Toronto.
C'est ça.
Là, je poursuis avec les classiques parce que, bon, hein, Toronto, ça reste une ville où il y a beaucoup de choses à voir, mais qu'on connaît peut-être de nom, mais qui valent quand même la peine d'être visitées, dont la Tour du CN, qui vaut la peine. Donc, on monte en haut. On a vraiment une superbe vue sur la ville. C'est une montée en ascenseur, donc c'est facile d'accès pour tout le monde.
Oui.
On peut aussi tenter l'expérience, si on n'a pas peur des hauteurs, du Edge Walk. Sur la passerelle extérieure, donc on porte une petite combinaison, là, on nous attache avec un harnais et on peut marcher en haut à l'extérieur. Donc ça donne des petites sensations fortes comme ça en haut de la Tour du CN.
Tu as vécu cette expérience, là, Maude?
Non, je l'ai pas fait. Je suis restée à l'intérieur.
Ah, voilà, comme moi, je ne pourrais pas, là.
Mais je suis contentée de regarder par la fenêtre. Ce qui est bien aussi, hein, la vie était tout aussi belle, j'en suis persuadée.
Mais j'ai la phobie des hauteurs, mais j'ai pas peur quand je suis à l'intérieur d'un avion, quand je suis en hauteur.
Ah, mais c'est ça, rester à l'intérieur de la tour, c'est mieux comme ça.
Voilà.
Toronto, ben, c'est une ville de sport aussi, hein, quand même. Ils ont des équipes sportives, donc on peut aller voir une partie de baseball des Blue Jays. Là, ça, la saison achève, là, mais ils ont encore quelques parties à jouer. Ou encore aller voir les Maple Leafs qui jouent parfois contre les Canadiens, d'ailleurs. Mm-hmm. Donc au Scotiabank Arena. Tout ça, c'est directement au centre-ville, près de la Tour du CN.
Oui. Et puis, il y a aussi l'équipe de basket de Toronto.
Oui, exactement. Désolée, j'avais oublié de la mentionner. Mais c'est ça, pour les amateurs de sport, on peut vraiment aller voir du sport pendant notre séjour. Là. Au centre-ville aussi, on retrouve le Dundas Square, qui est vraiment un peu la version Times Square.
Ah bon?
Times Square du Canada, oui. Donc, c'est on retrouve des centres commerciaux, mais il y a aussi des publicités, le format géant, un peu comme à la Times Square, des écrans géants.
À l'américaine, quoi.
Exactement. En version, évidemment, un peu plus petite, hein, en version Canada. Donc,
ouais.
On y va à notre échelle. Puis pas très loin, à vrai dire, pas très loin de la gare de train. Il y a le signe de Toronto, hein, donc les lettres illuminées au Nathan Phillips Square, qui sont toujours sympathiques pour aller prendre une petite photo. Puis en hiver, là, donc dans les prochaines semaines, ils construisent une patinoire qui est installée là pour la saison froide.
Ouais.
Donc, ça peut être agréable d'aller patiner.
Ouais, pour les amoureux des patinoires.
Et voilà. Si vous aimez manger, hein, donc quand même, quand
Maude, je ne sais pas s'il y a des gens sur cette terre qui n'aiment pas manger.
Je ne sais pas. En tout cas, pas moi. Moi, j'adore ça.
Moi, je fais partie de ceux qui aiment manger, en tout cas.
Ben, parfait. Mais à ce moment-là, le St. Lawrence Market est vraiment un arrêt où il faut aller. Là, c'est un des plus vieux marchés de la ville. Donc, non seulement, évidemment, on retrouve beaucoup de produits, mais c'est quand même le fun de voir que c'est vraiment une institution. En ville, donc il y a des fromages, il y a des boulangers, des bouchers, des fleuristes, on retrouve des fruits, des légumes. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour aller ramasser des petits produits locaux, puis peut-être se faire un pique-nique dans des beaches, justement au bord de la plage, par une belle journée d'automne.
Ouais, c'est comme notre marché Jean Talon ici, quoi.
Oui, exactement.
Oui.
Exactement. Je vous parle de mon adresse préférée pour le brunch, le Cost, K-O-S-T. Qui est, selon moi, un des meilleurs restaurants en ville, ne serait-ce que pour la vue incroyable qu'on a, parce que le restaurant se situe au 44e étage. Donc, le menu brunch varie un peu selon les week-ends. On est dans le menu inspiré un peu de la Barra Peninsula, là, donc de la côte californienne un peu.
Okay.
Donc, le décor est super sympathique. Et évidemment, on a la vue sur la Tour du CN pendant qu'on déjeune. C'est vraiment génial.
Oui. Est-ce qu'il faut réserver dans ces genres d'endroits comme ça ou bien on peut aller...
Je vous le suggère toujours, surtout les fins de semaine. Hein, c'est toujours bien occupé.
Oui.
Puis comme le restaurant est situé en même un hôtel, bon, ben, ça arrive que la clientèle se rend là directement pour déjeuner. Alors, idéalement, on réserve d'avance, avant même de partir.
Ah, d'accord, d'accord.
La maison. Mm-hmm. Je vous amène ensuite dans le Kensington Market. Bon, ça sonne marché dans le nom, mais en fait, c'est un quartier en soi qui est un petit peu éclectique. On est à l'ouest du quartier chinois de Toronto. On retrouve des boutiques en tout genre, des trucs, des cafés populaires, des bars, des microbrasseries, des restaurants, mais du mexicain à l'italien, en passant par le café vegan. Je sais vous parler véganisme un peu plus tard.
Oui.
Il y a aussi de l'art de rue, des graffitis. Donc, c'est vraiment un quartier... où on se sent complètement ailleurs. J'arrive même pas à vous dire un qualificatif spécifique pour ce quartier-là, tellement on retrouve de tout, mais c'est sympathique d'aller se promener justement parce que hein, si on est avec quelqu'un qui aime une chose, mais nous on aime autre chose, ben il y en a pour tous les goûts.
Wow.
Je vous recommande une microbrasserie. Vous savez comment j'aime vous parler de microbrasserie?
Ah ouais? Je ne sais pas combien de bières Maud boit quand elle sort. Mais...
ah, ben, on prend les dégustations. Hein. On essaie avec les dégustations d'abord.
Oui.
Le Trinity Common, c'est justement situé dans le Kensington Market. C'était vraiment une belle brasserie. On peut déguster des bières locales avec quelques petites grignotines.
Oui.
Je vous recommande, ça, c'est un endroit que je vous recommande de vraiment réserver parce que l'espace est grand, mais c'est extrêmement populaire.
Wow.
Donc, il y a des petites places extérieures où on peut s'asseoir sur le bord d'un feu. Donc, c'est sympathique. On est en ville, mais on a l'impression d'avoir cette petite ambiance de campagne le temps d'un moment entre amis.
Vraiment, ça donne l'envie d'aller faire un petit tour là-bas, quoi.
Exactement. Et je vous parle de Graffiti Alley dans le Fashion District. Je ne sais pas si vous aimez aller voir l'art de rue, mais ce petit bout de ruelle-là, dans le fond, c'est trois coins de rue, dans la ruelle Rush, qui est parallèle à la rue Queen West. On observe vraiment des énormes murales colorées. Elles changent un peu comme on peut retrouver ça à Montréal, l'avenue Saint-Laurent. Ça change un peu au fil du temps, mais c'est vraiment des murales qui sont magnifiques et il y a plusieurs personnes qui vont dans cette petite ruelle pour se prendre en photo avec ces murales colorées.
Moi, quand je les vois comme ça dans les rues ici de Montréal, je les prends, je les cache sous mes paupières et puis je m'en vais avec.
Je vous parle ensuite du quartier historique de Toronto qui s'appelle le Distillery District. Donc, c'est vraiment un lieu historique national puis un quartier qui est complètement piéton. C'est 45 bâtiments qu'on retrouve dans un seul et même endroit qui ont été transformés. Maintenant, on y retrouve des restaurants, des boutiques, des ateliers d'artisans, des galeries d'art aussi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une destination le fun où on peut aller se balader, prendre un petit café puis voir un peu qu'est-ce qui célèbre l'art, la culture et le divertissement de Toronto.
Oui, oui. Et quelles sont les bonnes adresses dans le district Distillery District?
J'aime beaucoup le Abnormal Beauty Company. C'est une adresse qu'on retrouve à quelques endroits à Toronto, mais celle dans le Distillery District est particulièrement jolie.
Oui.
La déco est vraiment magnifique et dès qu'on entre dans cette boutique, on se sent comme dans un spa. C'est des parfums créés sur mesure qui ont été créés pour toute la boutique Abnormal Beauty Company.
Oui.
Donc, on est vraiment transporté dans un lieu de détente. Ça a ouvert il y a peut-être 2 ans environ.
Ah bon, c'est nouveau. C'est pas vieux. C'est pas vieux.
Oui, c'est ça, 2-3 ans.
Oui.
On y vend des produits pour la peau, il y a des prix pour le corps, les cheveux, on vend du maquillage. Puis, bien évidemment, il y a les conseillers qui sont là pour nous spécifier quel genre de produits on aurait besoin selon notre peau et selon nos besoins.
C'est pour ceux qui aiment prendre soin de leur corps.
Oui, exactement. Une petite adresse pour se faire du bien. C'est difficile de repartir sans avoir fait quelques achats.
Ah! OK, c'est bien noté.
Il y a aussi le Clooney Bistro Boulangerie, qui est une petite boulangerie, mais c'est aussi un café. Moi, c'est un endroit que je recommande d'aller s'asseoir. Là. Bon, surtout, les journées sont un peu plus fraîches. Hein. Donc, à force de marcher, hein, parfois, ça fait du bien de se poser à l'intérieur, de se réchauffer. Prenez une petite pâtisserie, asseyez-vous tranquillement avec un café. C'est vraiment un peu à la française. On se sent un petit peu à Paris quand on est dans cette boulangerie. C'est vraiment chouette comme endroit.
En plein Toronto?
Oui, en plein Toronto, dans le Distillery District. On se sent vraiment comme on voyage ailleurs. Puis la dernière adresse que je vous recommande, c'est le Biltmore Domicile, qui est aussi dans le Distillery District et qui est une boutique déco vraiment éclectique.
Oui.
C'est comme une chasse au trésor. On rentre là, on a le goût d'acheter un peu tout si vous aimez faire de la déco à la maison. Il y a de la vaisselle, des objets de décoration vintage, des luminaires, de la poterie, des tableaux. On retrouve un petit peu de tout. Il faut juste s'assurer d'avoir de la place dans nos valises hein, pour ramener ce qu'on achète là-bas.
Alors, donc, si on veut, pour conclure, je dirais que Maud a eu un très bon séjour là-bas. Pas un séjour de travail, mais un très bon séjour touristique à Toronto. Alors.
Oui, justement, puis il faut y retourner plusieurs fois, parce que je trouve qu'en deux jours, on n'a pas le temps de tout voir. Parce
c'est
que vous voyez, je ne vous ai pas parlé du quartier chinois, je ne vous ai pas parlé du château qui est au cœur de la ville,
oui.
Les nombreuses adresses gourmandes. Je ne vous ai même pas parlé des îles de Toronto, que c'est magnifique à aller voir. Donc, on pourrait en parler vraiment longtemps. Il y a plusieurs choses à voir selon vos intérêts. Mmh. Donc, je vous souhaite d'aller passer un beau petit week-end à Toronto pour explorer cette ville.
Merci beaucoup, Maud Carrier, la globe-trotteuse.
Merci.
Merci.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Bye.
There's something shifting in the air. If I'm not mistaken, dust is clearing everywhere. Memories awaken, my feet on the runway. It's a beautiful day. I look.
Céline Dion, Flying on My Own. Voilà, avant de continuer, voilà, je dis merci à Maud de la Globetrotteuse qui est venue nous parler de la ville reine Toronto. Elle a passé un bon week-end là-bas. Et puis, bon, ben voilà, vous avez entendu tout ce qu'elle a raconté pour ceux qui nous ont écoutés. Pour ceux qui ne nous ont pas écoutés, qui viennent de nous prendre en marche, n'hésitez pas, allez-y, l'émission sera sur le site. De Canal M et puis sur toutes les plateformes numériques comme toutes les autres autre toutes les autres émissions, toutes les autres émissions de Canal M. Ça, c'est clair. Alors, je continue. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur les occasions de bénévolat. Je dis merci à Accès Bénévolat, d'ailleurs, qui fête bientôt, là, le 20 octobre, ses 40 ans. Voilà. C'est beaucoup, hein. Ouais, des gens qui sont mis au service du bénévolat, des gens qui sont dans le besoin. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire ici à Escale 16-17, tendez la main aux autres quand on a le temps, quand l'opportunité se prête, pourquoi pas. Mathieu, arrête de te moquer de moi.
Je ne te moque pas de moi.
Alors, les opportunités de bénévolat, adressez-vous à Laura Kane, qui est conseillère, Laura Kane, qui est conseillère en orientation, responsable de l'équipe volante. C'est-à-dire les gens qu'on peut, qui viennent, qui disent, bon, ben, j'ai le temps la semaine prochaine de telle heure à telle heure. J'ai toute une liste d'occasions de bénévolat à vous donner. C'est une manière aussi. Et puis, n'hésitez pas, même pour les 40 ans qui auront lieu le 20 octobre, ils ont besoin de bénévoles. Voilà. C'est la date, le jeudi 20 octobre de 16h à 19h. Chez Accès Bénévolat, qui est situé au 2544 boulevard Rosemont. On débute tout de suite, bénévole pour le 40e anniversaire, je le dis bien. Voilà, ça va être le jeudi de 15h30 à 19h30. Si vous avez un petit moment là, pour aller permettre à cette équipe, à cette grande équipe à qui je dis bravo et merci, depuis 40 ans. Cette année, l'organisme souffle ses 40 bougies, donc pour l'occasion, les organismes membres ainsi que les bénévoles sont invités à venir célébrer en compagnie de l'équipe le temps d'une soirée festive. Voilà, que ce soit... Parce qu'après, qu'Accès Bénévole a une place privilégiée dans votre cœur ou tout simplement parce que vous aimez l'énergie que l'on retrouve lors d'un événement, votre aide sera plus que venue très appréciée. Et alors, l'équipe aura besoin de votre soutien pour ses différents postes photographes. Oui, la caméra est à votre meilleur ami et puis vous avez capté les souris sur le vif. Hein, Mathieu, si ça te va, si tu me fais de belles photos, pourquoi pas? Ça va être le jeudi 20, de 15h30 à 19h30. Si tu peux faire de belles photos, je dis. Et puis bon, accueil des invités, si vous êtes reconnus pour votre efficacité, votre accueil chaleureux. Non, les gens tristes, ne vous présentez pas là-bas. Les gens chaleureux, toujours avec le sourire, la banane, voilà, c'est ça. Veillez à valider les présences des participants, ainsi qu'à remettre la programmation de la soirée. Ouais, c'est facile, non? Voilà. C'est le jeudi 20. Si vous avez le temps de 15h30 à 19h30, n'hésitez pas à dire ce voix à eux. Bénévoles volants aussi. Si vous êtes l'abeille qui veille aux différents besoins de son étage, dirigez les participants ou ravitaillez le buffet lorsque les délicieux sandwichs se sont envolés. Voilà. Ça, c'est comme ça aussi. Mais il y a des conditions. Hein. Il y a des prérequis. Aisance auprès du public. Ça compte beaucoup. Voilà. Aimer le travail en équipe, engagement et bonne humeur, avoir au moins 16 ans. On peut le faire, non? Rosemont, la petite patrie, dans le secteur. Ouais. Le petit plus, c'est une collaboration qui sera fournie et les titres de transport sont remboursés sur demande. Oui. Bon. Une autre occasion. Agent d'événement. Ça, c'est un bénévolat ponctuel. C'est ça. Le bénévolat volant, c'est quoi le bénévolat volant? Ça, c'est pour une seule fois. Vous ne revenez pas. Alors que le bénévolat ponctuel, c'est selon vos disponibilités, divers quarts de bénévolat. Le jeudi 27, entre 7h45 et 15h. Ça, c'est très important. L'événement, c'est le prix Femmes de Mérite au Nord pour une 28e édition. Des femmes dont l'ambition, l'engagement et les réalisations font une différence dans toutes les sphères de la communauté. Donc la vision de l'organisme, c'est celle d'une société inclusive et égalitaire où les femmes et les filles ont le pouvoir de se réaliser à la mesure de leur plein potentiel. Voilà, le prix inspirationnel pour sa part, met en lumière, ça c'est le prix, il y a le prix Femmes de Mérite, et puis il y a le prix inspirationnel, et qui pour sa part met en lumière récompenses de jeunes femmes inspirantes dans différentes catégories, saluant ainsi leur leadership, leur réussite professionnelle et leur engagement auprès de la communauté dans leurs domaines respectifs. Bon, pour cet événement, l'équipe est à la recherche de bénévoles pour les aider à divers postes. Accueil de 7h45 à 9h. Entrée du marché Bon Secours. Les bénévoles, le bénévole d'accueil doit pouvoir répondre aux questions des participants et les orienter. Vestiaire, 3 créneaux de 7h45 à 9h et de 9h à 13h et de 13h à 14h, hall du marché Bon Secours. En équipe de 3, les bénévoles du vestiaire doivent pouvoir s'occuper des affaires des participants. Et puis il y a les placeurs de 8h à 9h. Écoutez bien, voilà, je donne tout ça parce que vous sachez de quelle heure à quelle heure si vous avez une disponibilité pour aller donner un coup de main là-bas. Voilà. La grande salle, ça c'est de 8h à 9h, le bénévole oriente les participants vers leur table s'ils ne savent pas où aller. Et puis les runners de 7h45 à 13h45, c'est un besoin urgent à aller chercher à l'extérieur du marché Bon Secours. C'est les runners qui nous sauvent, hein. C'est la couronne, c'est la personne qui peut avoir besoin de plus d'expérience. Oui, et puis le bénévole volant de 7h45 à 13h45, vrai bénévole multitâche, remplace au pied levé tout besoin complémentaire. Il doit tout savoir, il doit tout faire. Voilà, multidisciplinaire, photographe, placer les gens, accueillir, c'est comme ça. Et puis il y a le vendeur de kiosque en salle, voilà. Ouais, ça c'est pas, il y a des gens qui vont dire, bon, moi je n'ai jamais vendu, mais ça s'apprend. Ah oui, je peux le faire, ça c'est, il faut que j'aille de 9h à 13h30, non, j'ai pas le temps. Voilà, c'est ça. Sinon, je pourrais le faire. Vendeur au niveau d'un stand. La personne devra se servir d'une tablette avec moyen de paiement. Les prérequis, bien sûr. On dit que les personnes polyvalentes et organisées. Voilà. Ça, oui, je sais que tu peux, Mathieu. Mais tu n'as pas le temps, tu seras ici. À qui peut m'accueillir les participants avec un sourire et compléter les tâches avec succès. Ça, c'est important. Et puis, pour certains postes, l'accueil, le placeur, le vendeur de kiosques et salles, la personne doit savoir se servir d'une tablette électronique. Voilà, avoir au moins 18 ans. C'est pas 16-17, là. 18 ans, voilà. Voilà, toi et moi, on peut le faire, mais on est ici, on n'a pas le temps. Secteur Ville-Marie. Donc le plus petit plus, en gros, c'est le repas sera fourni pour les bénévoles qui restent toute la journée. N'allez pas dépenser un sou pour vous nourrir. Rapidement, apportez, et une autre occasion, c'est apporter votre contribution à une levée de fonds soirée Kiloton. Kiloton. Bénévolat ponctuel, ça c'est le... La soirée aura lieu le 26 novembre, peut être accompagnée, accomplie quand vous le souhaitez. Ça c'est comme ça. Entre 17h30 et 23h. Oui, la cause, l'organisme, c'est une ressource alternative communautaire. Bon, tout ce que je vous dis, allez-y sur le site de Accès Bénévolat, oui, ou bien adressez-vous directement à Accès Bénévolat en un seul mot.org, ou bien adressez-vous à Laura Kane au 514-523-6599 poste 26. Voilà, c'est comme ça. Je reviendrai là-dessus. Il y a d'autres occasions encore. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Sarah Girard qui va nous parler de son nouveau livre Vegan en 30 minutes. Vegan en 30 minutes. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? S'il y a des gens qui ne sont pas créatifs, il y a des personnes comme ça qui sont là pour nous aider. Comment manger en moins de 30 minutes? Allez, à tout de suite. Restez à l'écoute.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Ah oui, Escale 16-17 continue avec mon invité qui est déjà au bout du fil, Sarah Girard, qui vient nous parler de son nouveau livre, d'ailleurs qui est en librairie depuis le 28 septembre, en ligne aussi, hein, et en magasin dans les différentes librairies de quartier et autres. Voilà, moi je l'ai lu, je l'ai parcouru. Moi, les assiettes, quand je voyais les plats là, ça me donnait tellement l'envie de manger. Je me suis dit, elle a fait ce livre là pour nous donner l'envie de manger même quoi.
Absolument, c'est pour ça que toutes les recettes sont en photo, c'est pour vous donner envie de manger.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Merci d'avoir le temps de venir parler de ce livre là, qui est déjà en librairie. Bon, c'est oui. Souvent le seul temps dont nous disposons dans notre routine familiale effrénée pour faire un bon repas avec le contenu du garde-manger du réfrigérateur. Vous avez eu envie de nous offrir 90 recettes familiales simples, accessibles, peu dispendieuses, savoureuses et rapides.
Oui.
Nous ne passerons pas une heure devant le four.
Ça, j'adore. Non.
Ça, j'adore. Ouais, j'adore.
Qui aime passer une heure devant le four?
Personne.
Certainement pas moi.
Moi,
non,
quand j'ai faim, non. Non. Et surtout, Et surtout, aucun gaspillage. Le bonheur, quoi. Voilà. Déjeuner savoureux à préparer à l'avance. Soupe, repas réconfortante. Salade, repas colorés qui peuvent devenir le lunch du lendemain. Repas principaux simples et rapides pour la vie de tous les jours. et de gourmands desserts pour une petite touche sacrée. C'est ce que propose Vegan en 30 minutes.
Oui, absolument.
Être vegan, c'est quoi?
Être vegan, en fait, non seulement on ne mange plus de viande, ni de poisson aux fruits de mer, ni de produits laitiers, alors j'inclus par là le lait de vache, le fromage, les œufs, mais aussi ça va plus loin, ça peut aller jusque dans les cosmétiques et aussi si on pense bien sûr au cuir, là. Donc c'est vraiment le vestimentaire. Le maquillage, ça peut aller jusque dans les produits même ménagers, etc. Là. Donc, c'est un peu plus loin.
Oui, OK.
Absolument.
Si je mange de temps en temps des choses que vous venez de citer, bon, que à côté aussi je prends un peu de viande, oui. Je ne suis pas vegan. Non, je suis mini, mini-vegan.
Mini-vegan, en fait. Moi, j'aime bien, c'est un mignon terme quand même. Ben, généralement, quand on mange un peu de tout dans la vie, on dit flexitarien. Donc, on peut manger autant les protéines végétales.
Flexitarien, je connaissais pas.
Oui, exactement.
Bon, voilà.
Donc, ça contient autant les protéines végétales que les protéines animales.
Depuis quand vous êtes vegan vous-même?
Ça va faire 10 ans en janvier que j'ai entamé une transition, tout d'abord végétarienne,
oui.
Et ensuite j'ai cheminé là-dedans. C'est parce que j'ai pas fait la transition tout seul, hein. Je l'ai fait en famille, j'ai quand même 4 enfants.
Oui.
Donc on a pris notre temps, on a fait ça sur plusieurs années.
Ça a été facile?
Pas pour tout le monde. Je ne vais pas mentir.
Bon, laissons les enfants. Bon, vous-même, ça a été difficile pour vous?
Pour moi, non. Pour moi, ça n'a pas été difficile. Le plus difficile, je pense que ça a été de trouver une substitution au fromage.
Oui.
Parce que, bon, hein, c'est bon le fromage. Et je pense que c'est ce qui a été le plus difficile, mais le reste, non. Ça n'a pas été difficile parce que j'ai pris mon temps d'enlever, de faire les étapes vraiment une à la fois.
Et bien, surtout qu'on n'a pas pris la décision du jour au lendemain.
Non.
C'est sur une réflexion.
Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ou qui achètent mes livres que, d'un, on n'est pas obligé de devenir vegan. Hein. On peut faire une différence juste en incorporant un repas par semaine pour découvrir les protéines végétales.
Oui.
C'est comme ça que j'ai commencé moi aussi il y a 10 ans.
Ouais, c'est pas. Je quand j'ai parcouru votre livre, je me dis, est-ce qu'elle va arriver à me convaincre? J'aime la viande. Je sais pas. J'aime les crevettes. J'aime le poisson et autres.
Mm-hmm.
Dis, voilà. Vous me donnez l'envie. Quand je vois vos plats là, très bien, de très belles photos. C'est vous qui les faites ces photos, bien vous
oui,
avez.
Oui, absolument. Non, je fais toutes les photos moi-même dans mes livres.
Voilà. Alors, qu'est-ce que les enfants, quand ils se sont rendus compte que maman ne mange plus de viande, de haute, tout ça,
oui.
Je parle de vos enfants avant qu'on continue dans votre entourage, vos amis, tout ça, comment ils ont réagi. Les enfants d'abord, ah maman, moi j'ai envie de ça, ou bien quelque chose comme ça.
En fait, mes enfants, ils étaient très jeunes. J'en avais un de 9 ans qui était quand même plus vieux. Pour lui, ça a été plus difficile tantôt quand on a abordé le point.
Oui.
Pour lui, ça a été plus difficile. D'ailleurs, il n'est pas vegan aujourd'hui. Il est rendu à 18 ans maintenant et il a choisi de faire comme un compromis 50-50.
Oui.
Mais mes trois autres enfants étaient très jeunes. Hein. Ils avaient entre 1 an et 3-4 ans. Donc, pour eux, ça a toujours fait partie de leur vie.
Oui. Ils ont grandi avec ça.
Oui, ils ont grandi avec ça. Et mes amis et mes parents, ils ne sont pas véganes, mais à chaque fois qu'on nous reçoit, ils ont la gentillesse de toujours nous faire un plat qui est adapté pour nous. Sinon, j'emmène les choses, tout simplement. Hein. On va pas se fâcher.
Mmh.
On va passer un bon moment ensemble.
Oui. Non, mais c'est... quand je vois le nombre de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, je dis waouh, c'est vraiment impressionnant. Hein. Ça
c'est
fait
gentil.
Du bien. C'est flatteur, non?
Ça me fait peur, vous dites?
C'est flatteur, n'est-ce pas?
Oh, flatteur! J'ai compris, ça me fait peur. Non, j'ai
non.
pas peur.
Non,
et
non,
oui!
Non.
Oui, c'est flatteur, oui. Ben, c'est apprécié d'avoir des beaux commentaires, des beaux retours, absolument.
Mmh. Parmi tous les plats que moi j'ai vus, là, je les aime toutes ces très belles photos. Parlez-moi un peu de la salade Club Sandus, là.
La fameuse salade Club Sandwich.
Oui.
Ben, en fait, j'avais une recette sur mon site web, macuisinedetouslesjours.com. On peut me trouver sous ce nom sur les réseaux sociaux.
Oui.
Et j'avais déjà créé un Club Sandwich en remplaçant le poulet par des tranches de tofu. Et j'avais fait un genre de tofu bacon émietté, vraiment délicieux. Et j'ai eu l'idée de refaire ça, mais en version salade. tout simplement pour réunir toutes les saveurs d'un club sandwich, mais plus facilement et un peu décomposé aussi. Moi, pour moi, c'était une tradition de mon enfance, le club sandwich, on mangeait ça tous les vendredis.
Quand j'ai lu ça, ça m'a fait sourire. Quand j'étais jeune, le vendredi était club sandwich.
Ouais,
et ce n'était pas pour me déplaire. J'ai réitéré ce souvenir en version salade. Ça, c'est très poétique.
Oui, oui. Ben oui, c'est vrai. Je suis pas née dans une famille végane ou végétarienne, hein, vous savez. Donc, pour moi, je suis très attachée à mes classiques d'enfance que j'aime reproduire maintenant pour mes enfants.
Oui. Temps de préparation, 20 minutes. Temps de cuisson, 5 minutes.
Oui, c'est pas très long.
C'est moins de 30 minutes.
Oui, exactement.
Ouais. Si moi, je veux faire ça demain, là, qu'est-ce que vous me conseillez? Moi, j'ai le livre en face de moi. Je l'ai lu, d'ailleurs, je l'ai en face de moi. Les ingrédients, pour ceux qui nous écoutent, là, rapide, un sommaire, un résumé total de, comment dire, des ingrédients que vous leur conseillez d'utiliser.
En fait, les ingrédients vont toujours être les mêmes au travers de tout le livre, donc pas de surprise.
Oui.
C'est des ingrédients qu'on achète dans toutes les épiceries du Québec. On n'a pas besoin de faire 3 épiceries et de regarder à 2 fois le nom parce qu'on comprend pas qu'est-ce que c'est. Donc, c'est vraiment des ingrédients familiers, vous iriez, comme je vous dis, dans toutes les épiceries. Et ils reviennent vraiment au travers de tout le livre, non seulement ça, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais dans les recettes, quand j'utilise, admettons, je donne un exemple, si je n'utilise pas la conserve de pois chiches au complet, il y a une note en bas de la page qui dit
«
Allez à la page un tel pour éviter le gaspillage alimentaire, hein, parce qu'on n'aime pas ça, on veut pas que l'autre moitié de la conserve traîne. Alors, je donne toujours des solutions pour que vous perdiez rien, puis que ce soit vraiment aussi des recettes à petit prix avec des protéines végétales qu'on trouve facilement.
Ouais, wow. La salade niçoise revisitée. Bon, on y va avec ça, parlez-nous un peu, donnez-nous un peu les ingrédients. C'est-tu la même chose, mais vous avez revisité? Qu'est-ce que vous avez ajouté là-dessus?
Là, c'est sûr qu'elle n'a pas d'œufs, hein. La salade niçoise, je pense que de
c'est
base,
ce que
elle,
je
a
vois.
Des... elle a des œufs. La protéine, généralement, c'est surtout ça. Moi, j'ai gardé quand même le concept de la salade niçoise, mais j'ai remplacé la protéine, donc les œufs, par des lentilles, tout simplement. Et puis, j'avais envie de me rappeler un voyage que j'avais déjà fait il y a très longtemps dans le sud de la France. Et donc, j'ai essayé de reproduire un peu les mêmes saveurs au travers de cette salade-là. C'est vraiment super bon l'été, d'ailleurs.
Oui. Et pour ceux qui aiment le petit, ceux qui ont 3 repas, parce que c'est pas tout le monde qui a 3 repas par jour. Hein. Il y a des gens qui mangent pas le matin, ils mangent qu'à midi et puis le soir.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez le matin?
Ben là, il y a une grosse section de déjeuner le matin, là, à l'intérieur de mon livre. Autant des déjeuners sucrés que
la liste, quand je vois les smoothies tarte aux pommes, les smoothies façon creamsicle.
Creamsicle, ouais, ça rappelle l'enfance.
Quel est votre préféré? Je sais que vous aimez tous vos bébés. Qu'est-ce que vous leur conseillez le plus le matin rapide pour ceux qui ne sont pas habitués à prendre quelque chose le matin avant de partir au travail, mais pour qu'ils aient envie de prendre un petit quelque chose.
C'est sûr qu'un smoothie, ça s'apporte très bien.
Oui.
Quand même, ça s'apporte très bien au boulot.
Oui.
De même que des muffins, hein, on fait ça en avant, ça se fait congeler et ça s'apporte quand même super bien au boulot. C'est sûr qu'après ça, pour rapidement le matin, il y a mes gruyots 5 façons.
Mm-hmm.
Donc, une base dans un pot maçon et on peut choisir les garnitures qu'on veut. Comme dans le livre, il y a 5 garnitures différentes. Ça cuit 1 minute au micro-ondes et c'est prêt. C'est vraiment un déjeuner sur le pouce en quelques instants. Hein. Quand même, je trouve que c'est des belles solutions parce que partir le ventre vide, on finit par avoir faim et acheter quelque chose sur le chemin.
Oui. Quels sont les légumes que vous avez ajoutés dans les muffins, là? Les muffins chocolat, banane et épinards?
Ben, des épinards.
Oui, tout court. Ouais.
Des épinards, mais ça ne goûte pas parce que si mes enfants les verraient, ils les mangeraient pas.
Ils n'aiment pas les épinards.
Ben, comme ça, ils ont un peu de difficile.
Oui.
Mais quand, à l'intérieur de ça, quand ils ont goûté la première fois, ils m'ont dit « Maman, ils sont bons, t'es ma femme. » Et après, je leur ai dit qu'il y avait des épinards, ils ne me croyaient pas.
Moi, j'aimerais bien goûter ça. C'est, j'aimerais bien.
Vous êtes curieux, hein?
Oh, ouais. J'aimerais bien goûter ça. Ouais, parce que là, vraiment, c'est quelque chose de dingue. Je vois la liste là. Non, j'étais fasciné d'abord par la beauté des images. Et quand je lis les textes, les préparations, j'ai dit « Mais elle a pris le temps... » Quelle est la maison d'édition, d'ailleurs? Broquet. Depuis combien de temps vous travaillez avec eux?
Depuis mon premier livre, ça va faire 3 ans l'année prochaine.
Très belle collaboration.
Merci.
Ouais, ouais. Et on lui a dit bravo aussi, merci de cette belle collaboration avec vous. Est-ce qu'il y a des gens qui vous appellent pour dire Sarah, est-ce que je peux avoir des cours de cuisine?
Ben, présentement, je suis en processus de peut-être donner des ateliers culinaires.
Oui.
Ça, c'est quelque chose que j'ai même pas annoncé encore sur mes réseaux sociaux. Là, je vous annonce.
Oh, ça, c'est une première.
Non, ça reste. Genre de première, mais je suis en processus.
Ça reste entre nous, là.
Ouais, on va dire que personne nous écoute.
Voilà.
Et donc, oui, je suis en processus d'offrir bientôt des ateliers culinaires dans ma région.
Où est-ce que vous habitez?
Dans les cantons de l'Est.
Dans les cantons de l'Est, ouais. C'est loin de Montréal, ça, je...
Ben oui, mais j'ai eu de la demande pour Montréal, mais c'est un peu loin.
Ah, ça dépendra du nombre de personnes qui...
Ah, peut-être un jour.
Oh, voilà, ça, j'attends ça. Je regarde.
Ah, vous viendriez me voir?
Si vous déplacez à Montréal, dans un local quelque part où il y a assez de gens, ou bien une dizaine, vingtaine de personnes qui aimeraient avoir participé à cet atelier, moi, je ferai le déplacement.
Ah, bon, ben,
voilà. Une de mes préférences, c'est la soupe crémeuse, gnocchi et légumes.
Oui.
Ça a été... J'adore
les gnocchis.
Les soupes crémeuses.
Oh, les soupes crémeuses, oui.
Voilà, et puis ce mélange de gnocchi et de légumes, là, quand j'ai vu ça, il est...
C'est vraiment bon.
Oui, voilà. C'est quelque chose qui se fait facilement, d'ailleurs.
Oui, c'est super bon, super réconfortant. Encore une fois, c'est que des légumes qu'on a dans notre frigo. Hein. On peut modifier les légumes hein, aussi. On n'est pas obligé de suivre la recette à la lettre. Des fois, on peut changer un légume pour un autre selon le contenu de notre réfrigérateur. Hein.
Mmh. Est-ce que être vegan, c'est une manière de vivre ou bien simplement de changer son alimentation? Est-ce que c'est un état d'esprit?
Non, je dirais les deux premiers choix que vous avez dit. Mmh. C'est une manière de vivre, c'est un mode de vie, mais c'est aussi, ça implique évidemment des changements dans notre alimentation, pour sûr. Mmh. Mais ça, on fait ça graduellement.
Est-ce qu'il arrive que Sarah Girard, quelquefois, ait envie d'une bonne brochette de... de je ne sais quoi.
Non, plus maintenant. Avant, j'aurais dit oui, maintenant, non. C'est vrai que ça m'a vraiment passé.
Oui.
Mais non, maintenant, j'ai plus envie d'une bonne brochette de poulet. Maintenant, c'est terminé. Oh,
non, sincèrement, Sarah, non, je dis, pour faire le pas. Non, c'est beau, c'est de belles photos, belles images de ces plaques ici, là, mais pour faire le pas, c'est pas facile pour nous. Moi, personnellement, je suis tellement habitué aux poissons, à la viande et autres, mais ça ne veut pas dire que je touche pas à beaucoup de choses dans votre livre auxquelles je touche. Attention, je ne mange pas uniquement de la viande ou bien uniquement du poisson. Voilà. Mais il va falloir que peut-être que j'aille beaucoup plus encore vers le... Mais ça ne veut pas dire que je vais devenir d'ici demain. Vous avez fait aussi un progrès. Vous avez fait un processus pour arriver à vraiment être là. Bon, ben, ceux qui me connaissent, qui nous écoutent actuellement, vont dire « Oh, Fulgence va devenir vegan. »
Ah non, mais vous pourriez prendre une recette de mon livre et en faire une par semaine, pourquoi pas?
Non, ça c'est vrai, je vais prendre quelques recettes. Effectivement, quand je vois je me dis « Mais waouh, il y a pas mal de choses qu'on peut prendre de son livre et puis essayer de tout doucement, quand on n'a pas envie de passer une heure de temps à la cuisine, de faire rapidement et puis...
Ouais. »
Voilà, c'est quand je vois, mais c'est bien. Et comment dirais-je, j'ai hâte que vous vous mettiez à faire des ateliers de cuisine, surtout, pour que nous, à Montréal...
Oui, je vais garder ça en tête, hein. Je vais regarder ça en tête pour vous recontacter.
Je vais venir, je vais assister à ça.
Ça serait avec grand plaisir.
Mais parlez-nous, le BLT de Tempé, là, c'est quoi au juste?
En fait, c'est la même chose qu'un BLT avec du bacon.
Oui.
Sauf qu'il n'y a pas de bacon. Donc là, c'est du tempeh qui est fait aussi à base de soya fermenté.
Oui.
Et généralement, le tempeh, on aime ou on n'aime pas.
Oui.
Parce que comme il y a la fermentation, il y a une petite saveur dans le palais. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est la texture du tempeh, c'est ce qui rappelle le plus la viande. Juste comme ça au passage.
Oui.
Et ici, on le fait fumer avec une petite goutte de fumée liquide.
Mmh.
Et puis, c'est vraiment délicieux. Mes enfants adorent ça. Un peu de mayonnaise, laitue, tomate. Et on a vraiment un bon souper.
Wow! Ouais. Temps de marinade, 20 minutes. Temps de cuisson, 5 minutes. Et puis, temps de préparation,
c'est
5 minutes.
C'est vraiment rapide.
Ça va tout en dessous de 30 minutes. Tout en dessous. Et le titre va tellement bien avec tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Ouais,
pardon, quand
ouais,
je vois
exactement.
toute la période qu'il faut avoir, et puis voilà, comment est-ce que vos connaissances qui sont déjà véganes réagissent à vos livres?
Vous parlez des gens autour de moi?
Oui, qui sont aussi véganes comme vous. Qui
ben,
vous lisent, écoute, pour ceux qui n'ont ça, pas lu, on les
oui,
oublie.
Oui, oui, oui. Ben, voilà. En fait, ça, c'est mon deuxième livre.
Oui.
Alors, j'en ai sorti un il y a 2 ans,
oui,
qui s'appelait One Pot Vegan.
C'est ça.
Et là, bon, ça, c'est mon deuxième. Les gens, ils se procurent maintenant le deuxième et ils me disent qu'ils préfèrent encore plus le deuxième que le premier.
Oui.
Alors, moi, je comprends pas comment cela se fait. Mais parce que quand on crée un livre de recettes, je veux dire par là qu'on est dans nos quatre murs, hein, on est tout seul.
C'est ça.
Et de voir la réaction vraiment des gens comme ça, du public, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Ça me fait vraiment chaud au cœur.
Ah ouais, ouais, ouais. Alors, pour la dernière minute qui nous reste, pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient faire le virage de mangeurs de poissons, de viande, de brochettes, à tous ces beaux plats qu'on retrouve dans votre vie, dans votre livre Vegan en 30 minutes, quel est le petit conseil que vous leur avez donné?
Ben, en fait, le meilleur conseil, c'est vraiment d'y aller progressivement.
Oui.
Pourquoi pas dire à chaque lundi, au souper,
oui,
ben, on essaiera une recette peut-être de ce livre-là.
Oui.
Et on essaie des nouvelles saveurs. Et puis, tout doucement, mais sûrement, on peut faire une petite différence. Hein.
Mm-hmm.
Voilà, c'est ce que je conseille vraiment, d'y aller progressivement.
Merci beaucoup, Sarah Girard. Je vous le dis pour ceux qui ne la connaissent pas, macuisinedetouslesjours.com.
Oui.
Son courriel, c'est macuisinedetouslesjours@outlook.com. Sur Facebook, c'est macuisinedetouslesjours. Instagram, YouTube, elle a des vidéos là-bas. Elle,
oui,
elle est partout, vous allez voir. Vous allez entendre sa voix, vous allez voir ses plats qu'elle présente. Merci beaucoup, Sarah Girard.
Ça fait plaisir.
Au pour plaisir de vous réentendre, de vous recevoir encore pour le... Voilà, ma Vegan en 30 minutes, deuxième version.
Ah, oh, ben en fait, pour le tome 3 qui s'en vient bientôt.
Oui, pour le qui s'en vient bientôt.
Oui.
Mais laissez-nous déguster ce deuxième tome.
Ah, oui, effectivement.
Merci beaucoup à vous et à bientôt.
Merci, ouais, à bientôt, au revoir.
Au revoir. Merci Sarah Girard d'être venue nous parler de ces 30 minutes avec son livre. C'est son deuxième livre d'ailleurs, Vegan en 30 minutes. Voilà, merci aussi à la maison d'édition, voilà, qui a fait cette collaboration broquette. Voilà, bien, moi, avant de passer à la dernière pièce musicale, oui, avant de terminer l'émission, je vais parler du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ouais, à plein volume, Basquiat et la musique, pavillon. Ça se passe au pavillon Jean-Noël Desmarais, niveau 3. Le 15 octobre, aujourd'hui c'est le 12, si je ne me trompe pas. Oui, c'est dans 3 jours. Ouais, c'est ça. Jusqu'au 19 février 2023. Il s'agit de quoi? C'est le Musée des Beaux-Arts de Montréal qui est en collaboration avec le Musée de la Musique Philharmonie de Paris, voilà, qui convie le public à un voyage dans l'univers visuel et sonore du phénoménal Jean-Michel Basquiat. 1960-1988. Ça, c'est ça. Durée de vie, là, voilà. 88, pardon. 1960-1988. Du 15 octobre 2022 au 19 février 2023, à plein volume, Basquiat et la musique proposent cette exploration approfondie des liens étroits qui existent entre la musique et la vie de l'œuvre de l'artiste. C'est important pour ceux qui adorent ça, n'hésitez pas. Voilà, je faites le petit saut là-bas. Allez-y, vous... gâter les oreilles, les yeux, tout ça, tout un mélange. Il y a de la musique, il y a l'œuvre, il y a tout. L'exposition, la première consacrée à l'importance de la musique dans la pratique de Basquiat, a fait découvrir son art au rythme du New York des années 70 et 80. Waouh, quelle belle époque, 70-80, New York. Donc elle met en lumière d'abord les sons qu'il a traduits en peinture, de l'opéra au jazz, en passant par le hip-hop. Tous les styles de musique sont là, sont regroupés. Personne n'est laissé sur le trottoir, tout le monde est dans le wagon du train qui passe. Et les musiciens qui l'ont inspiré d'ailleurs, et donnant à entendre autant qu'à voir, elle réunit plus d'une centaine d'œuvres. Plus d'une centaine d'œuvres. Waouh. ainsi que de nombreux extraits sonores, des vidéos exposées pour la première fois, des carnets et de rares documents d'archives. Merci au Musée des Beaux-Arts et puis le Musée de Musique Philharmonie de Paris, qui se sont mis ensemble pour nous offrir ce cadeau-là du 15 octobre 2022 au 9 février 2023. Je dis bien au pavillon Jean-Noël Desmarais, 3e niveau, niveau 3. C'est très important. N'oubliez pas ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore rapidement? Je voulais revenir un peu sur la finale. Comment dirais-je? La finale, comment? Pas la finale, mais le Formule 1, la course. Formule 1, la course qui a eu lieu le dimanche passé. Le jeune hollandais, si on peut l'appeler comme ça, il est mélangé quand même. Il a une partie belge, il a une partie hollandaise, je ne sais pas quoi. il est déjà sacré champion du monde 2022. Max Verstappen. C'est lui, cette année personne n'a contesté, mais son titre de champion du monde 2021, c'est vraiment contesté parce qu'on sait comment qu'il a été champion. C'était Lewis Hamilton qui menait la dernière course à Abu Dhabi, à Dubaï, je ne sais où, là, dans les pays du Golfe, jusqu'au dernier tour. Et puis, le camion qui, la voiture qui, le safety car qui le permet de se suivre sans toutefois doubler les autres, a permis à l'autre de dépasser rapidement Lewis Hamilton pour prendre le titre de champion du monde 2021. C'est contesté actuellement parce que son équipe Red Bull, il fait partie, c'est l'un des coureurs de Red Bull, qui actuellement a de sacrés problèmes, lesquels ils ont dépassé la somme imposée par la Fédération internationale d'automobile pour les dépenses. Ah oui, donc il se pourrait qu'on lui enlève son titre mondial, il se pourrait, je dis bien, de l'année passée pour remettre à Lewis Hamilton. C'est chaud là depuis que ça a été dévoilé, hein. Et les gens disent qu'il a payé, c'est-à-dire son écurie a payé l'Australien qui était à l'époque ce responsable technique, combien de millions de dollars, on ne sait même pas, pour qu'il fasse ce geste qu'il a fait, cette erreur humaine, pour que Max Verstappen ait son premier titre mondial. Mais cette année 2022, ce n'est pas contestable. Mais 2021, s'il remet à Hamilton, ça va être son 8e titre. Je reviendrai là-dessus les jours à venir. Restez à l'écoute. Mathieu, on va en musique. Je peux profiter pour dire merci en même temps. On va écouter la pièce musicale. Voilà. Et puis, on termine. Merci à toi, Mathieu. On se retrouve demain.
J'ai pas le choix.
Voilà. Merci à Maud Carrier et merci à Sarah Girard pour son livre Vegan en 30 minutes. Merci à vous, chers fidèles auditeurs, auditrices. On se retrouve demain sur les mêmes ondes de Canal M. On termine en beauté avec quel artiste? Mathieu, tu me donnes le titre?
Estudiante.
Estudiante, amor de amor.
Amor et amor.
Merci à vous. Prenez soin de vos minutes. Sur ce, je vous dis ciao. Tendez la main aux autres qui sont dans le besoin.